la revue de presse internationale.
Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Vous avez donc lu cette presse internationale. De quoi parle-t-elle au sujet de la situation en Syrie ce matin ?
Eh bien, si l'annonce mardi soir d'un accord de cessez-le-feu avait pu faire croire à certains que le régime de Damas et ses alliés étaient sensibles à la pression internationale, voire, comme l'écrit des standards, qu'il était possible de convaincre les belligérants qu'il y avait des limites au cynisme, la journée d'hier aura vite fait de doucher tous leurs espoirs en faisant résonner une fois de plus le fracas des armes avec les cris et les larmes. Mercredi matin, alors que des centaines d'habitants de l'enclave bombardée se pressaient dans les rues, affamés, désespérés pour embarquer dans des autobus censés les sortir enfin de l'enfer, non seulement les bus sont repartis vides, mais les bombardements n'ont pas tardé à redoubler, amenant les habitants à courir en tous sens pour essayer de sauver leur vie. Toute la journée d'hier, les bombes ont continué de s'abattre sur les derniers kilomètres carrés d'Alep Est qui échappent encore au contrôle de l'armée syrienne. Alors pourquoi tout d'abord l'accord sur la capitulation d'Alep a-t-il capoté ? Après que la Turquie eut négocié une trêve en se posant en médiateur entre les rebelles syriens et Moscou, Damas et surtout Téhéran semblent avoir ajouté à la dernière minute de nouvelles conditions à cet accord russo-turc, faisant ainsi voler en éclats un dénouement conclu sans leur assentiment. Loin de se ranger derrière la trêve conclue par Moscou, l'Iran exigerait en effet que l'évacuation des milliers de personnes qui restent à Alep Est soit conditionnée au départ d'une partie des habitants de deux villages chiites, Foua et Kefraya, assiégés depuis des mois par les rebelles syriens. Distantes de quelques dizaines de kilomètres à peine d'Alep, ces deux enclaves, précise le temps de Lausanne, se trouvent dans la province voisine d'Idlib, encore aux mains de la rébellion syrienne. Or là-bas, les habitants chiites encerclés de toutes parts ne doivent leur survie qu'aux forces du Hezbollah, le mouvement chiite libanais pro-iranien qui assurent leur défense. Alors ce matin, en contrepartie donc de l'évacuation de ces 15 000 personnes assiégées par les rebelles dans les villages chiites de Foua et Kefraya, un nouvel accord de cessez-le-feu aurait, dit-on, été proclamé. C'est du moins ce qu'annonce un organe de presse du Hezbollah libanais qui assure que l'évacuation des rebelles à Alep pourra commencer dans les toutes prochaines heures.
Quoi qu'il en soit, Thomas, plusieurs leçons peuvent d'ores et déjà être tirées de ces ultimes tractations.
Oui, et la première d'entre elles, c'est que l'Iran et la Russie, bien que tous deux alliés de Damas, ne poursuivent pas en réalité les mêmes objectifs en Syrie. Ensuite, écrit le quotidien libanais L'Orient le Jour, la confusion qui règne actuellement autour du sort d'Alep démontre la faiblesse intrinsèque du régime de Damas qui ne doit sa survie qu'à l'aide de ses deux alliés, Téhéran et Moscou, lesquels tirent seuls les ficelles de cette guerre par procuration, fonction de leurs propres intérêts et de leur sphère d'influence. Ou dit autrement, selon Il Soleil, la chute d'Alep ne change absolument rien au potentiel géopolitique explosif du conflit en Syrie, car le véritable enjeu est la partition en différentes zones d'influence d'un pays qui constitue le cœur du Proche-Orient. Troisièmement, le fait que la Turquie se soit posée en médiateur entre les rebelles syriens et Moscou, parce qu'Ankara sait qu'elle peut compter sur le feu vert de Poutine pour sévir contre les Kurdes, est un signal fatal, note de son côté Ditagas Zeitung, à l'adresse de la communauté internationale totalement marginalisée, le symbole même de l'échec en particulier de toutes les institutions, de tous les mécanismes mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour soi-disant bannir les guerres et les crimes de guerre. Enfin, les tractations autour des deux enclaves chiites de Foua et Kefraya semblent indiquer que la province d'Idlib sera le prochain objectif sur la liste de Damas, Moscou et Téhéran, d'autant que si les violences à Alep ont suscité l'indignation de la communauté internationale avec l'efficacité que l'on sait, une campagne militaire majeure à Idlib ne devrait en revanche rencontrer aucune espèce d'objection. Et pourquoi ? Parce que la province est aujourd'hui dominée par une multitude de groupes et de groupuscules à forte influence djihadiste et salafiste. Ce qui pose une fois de plus la question de la radicalisation, remarque encore L'Orient le Jour, c'est là le danger principal qui menace aujourd'hui la rébellion. Entre désillusion, frustration, manque de moyens et de soutien, l'option djihadiste est en effet devenue de plus en plus tentante pour certains rebelles. Un scénario qui ne fait que renforcer la propagande du régime syrien de ses alliés pour frapper impitoyablement l'opposition syrienne. Et ce, même si, comme le prouve la bataille d'Alep où les miliciens de l'ex-front al-Nosra ne représentaient qu'une poignée de combattants par rapport aux autres rebelles sur place, le régime et ses alliés n'ont pas besoin, on le sait, de trouver une justification pour commettre leurs crimes de guerre, pour assiéger et bombarder. Pour toutes ces raisons, résume à nouveau L'Orient le Jour, ce qui s'est passé en Syrie et à Alep en général, et Alep Est en particulier, donc aujourd'hui le plus hallucinant dynamitage de masse depuis au moins la fin de la guerre froide, dynamitage non seulement de la manière dont la guerre est faite, mais aussi des grands axes, des centres de gravité géopolitique, des us et coutumes diplomatiques, le dynamitage également des déplacements humains ou bien encore du concept même des Nations Unies et de celui de terrorisme, sans oublier bien entendu le dynamitage de la morale, de l'éthique, de l'humanité. Ce qui s'est passé à Alep Est, sous les chuchotements d'indignation polie des nations et dans un maelstrom planétaire plus ou moins inspiré de tweets, de statuts Facebook et de photos Instagram, est la traduction littérale de cette néo-humanité désormais réduite à son âge de pierre où l'on choisit de ne pas combattre à la fois la peste et le choléra moyenâgeux en diable.